À présent donc que, comme des charpentiers, nous avons à pied d'œuvre entièrement trié les matériaux dont il nous faut composer le reste de notre exposé, reprenons brièvement ce que nous avons dit, en commençant, et revenons vite au même point d'où nous sommes parvenus ici, et tâchons de finir notre histoire en lui donnant un couronnement en rapport avec ce qui précède. Or, ainsi qu'il a été dit au commencement, tout était en désordre, quand Dieu introduisit les proportions en toutes choses, à la fois relativement à elles-mêmes et les unes à l'égard des autres, dans toute la mesure et de toutes les façons qu'elles admettaient la proportion et la symétrie. Car jusqu'alors, aucune chose n'y avait part, sauf par accident. Et parmi les choses qui ont des noms aujourd'hui, il n'y en avait absolument aucune digne de mention qui eût un nom, tel que le feu, l'eau ou tout autre élément. Mais tout cela, c'est Dieu qui l'ordonna d'abord, et qui en forma ensuite cet univers, animal unique, qui contient en lui-même toutes les créatures vivantes et immortelles. Des animaux divins, c'est lui-même qui en fut l'artisan. Mais pour les animaux mortels, il chargea ses propres enfants de les engendrer. Ceux-ci prirent modèle sur lui, et quand ils en eurent reçu le principe immortel de l'âme, ils façonnèrent ensuite, autour de l'âme, un corps mortel, et lui donnèrent pour véhicule le corps tout entier. Puis, dans ce même corps, ils construisirent en outre une autre espèce d'âme, l'âme mortelle qui contient en elle des passions redoutables et fatales. D'abord le plaisir, le plus grand appât du mal, ensuite les douleurs qui mettent les biens en déroute, en outre la témérité et la crainte, de conseillère imprudente, puis la colère difficile à calmer, et l'espérance facile à duper. Alors, mêlant ces passions avec la sensation irrationnelle et l'amour qui ose tout, ils composèrent suivant la loi de la nécessité la race mortelle. Aussi, comme ils craignaient de souiller le principe divin, sauf le cas d'une nécessité absolue, ils logèrent le principe mortel à l'écart du divin, dans une autre chambre du corps. Ils bâtirent à cet effet un isthme et une limite entre la tête et la poitrine, et mirent entre le cou, afin de les maintenir séparés. C'est dans la poitrine et dans ce qu'on appelle le tronc qu'ils enchaînèrent le genre mortel de l'âme. Et parce qu'une partie de l'âme est naturellement meilleure et l'autre pire, ils firent deux logements dans la cavité du thorax, en le divisant comme on sépare l'appartement des femmes de celui des hommes. Et ils mirent le diaphragme entre eux comme une cloison. La partie de l'âme qui participe du courage et de la colère, qui désire la victoire, fut logée par eux plus près de la tête, entre le diaphragme et le cou, afin qu'elle fût à portée d'entendre la raison, et se joignit à elle pour contenir de force la tribu des désirs quand ils refusent de se soumettre de plein gré aux prescriptions que la raison leur envoie du haut de sa citadelle. Quant au cœur, nœud des veines et source du sang, qui circule avec force dans tous les membres, ils le placèrent au corps de garde, afin que, lorsque la partie courageuse bouillirait de colère à l'annonce faite par la raison que les membres sont en butte à quelque injustice causée du dehors ou par les désirs intérieurs, chaque organe d'essence dans le corps put rapidement percevoir par tous les canaux les commandements et les menaces de la raison, leur obéir et s'y conformer exactement, et permettre ainsi à la partie la plus noble de commander à eux tous. En outre, pour remédier au battement du cœur, dans l'appréhension du danger et dans l'éveil de la colère, les dieux, sachant que c'est par le feu que devait se produire ce gonflement des parties irritées, imaginèrent de greffer sur lui le tissu du poumon qui est mou et dépourvu de sang, et qui, en outre, contient en lui des cavités percées comme celles d'une éponge, afin que, recevant l'air et la boisson, il rafraîchit le cœur et lui procura du relâche et du soulagement dans la chaleur dont il est brûlé. C'est pour cela qu'ils conduisirent les canaux de la trachée artère jusqu'au poumon et qu'ils le placèrent au-dessous du cœur comme un tampon, afin que le cœur, quand la colère atteint en lui son paroxysme, battant contre un objet qui lui cède en le rafraîchissant, fût moins fatigué et servît mieux la raison de concert avec le principe irascible.